il est cornu, poussiéreuse, qui fume comme des bienheureuses. Une tête hirsute au regard triste, c'est mon ami l'alchimiste.
François Bellard, salut.
Bonjour Nico.
Tu es animateur bénévole à Radio PFM, chroniqueur de partager d'autres chansons. Tu animes aussi l'émission Les Artisans du Répertoire. Tu es un passionné de chansons francophones. Tu écris aussi pour des revues, des sites spécialisés comme Je Chante, Vinyle ou encore Nos Enchanteurs. Tu viens de publier, alors c'est ton premier livre aux éditions L'Harmattan ?
C'est mon premier livre en général.
Et ça s'appelle « Les trois Horaces, les artisans imagiers de la chanson ». Donc un livre très documenté qui parle de ce groupe, les trois Horaces. Alors, qu'est-ce que c'était les trois Horaces ?
Eh bien, les trois Horaces, c'était trois garçons qui, à l'âge de 20 ans, ont eu envie de faire de la scène et de monter en scène des chansons mimées. Ils ont été très inspirés par ce que faisaient à l'époque les frères Jacques, qui avaient beaucoup de succès. Mais ils ont voulu faire quelque chose de différent. Parce que, évidemment, sinon, ils n'auraient pas trouvé de public. Les frères Jacques occupaient le créneau. Et donc, eh bien, ils se sont orientés vers le mime. Ils ont essayé de monter des chansons, mais mimées avec les techniques de mime des genres Marcel Marceau, les mimes de l'époque qui avaient du succès. Voilà. Et donc, c'est ça leur originalité. Et d'ailleurs, ils en ont pris aussi la tenue du mime. Ils se sont blanchis le visage, ils se sont habillés avec des collants, enfin, des juste au corps. Et donc, voilà, c'est un groupe qui a cherché une originalité dans la mise en scène de chansons.
Au départ, rien ne les prédestinait finalement à une carrière dans la chanson, dans le spectacle ?
Rien du tout, sinon le goût de la chanson. Ils étaient tous les trois étudiants à l'école hôtelière de Paris. Et donc, ils se sont connus à l'école hôtelière, dans les locaux de l'école hôtelière de Paris. Dans un spectacle de fin d'année, ils ont voulu monter quelques chansons des frères Jacques, justement. Et donc, ils ont monté le général Castagnetas ou je ne sais plus, la queue du chat, enfin bon, des chansons typiques. Ils les ont travaillées, ils les ont montrées sur scène et ils ont eu beaucoup de succès. Cette prestation a beaucoup plu. Et ça leur a donné l'idée de faire eux-mêmes du montage de chansons, de la mise en scène de chansons sur scène.
Fusée, je t'ai trouvé presque aussitôt, et je suis resté médusé. Tu m'avais pris comme au lasso, je t'ai suivi sur la pelouse, tes tentacules autour du cou, et avec tes petites ventouses, tu m'as fait des baisers partout. Les musiciens soufflaient sans trêve dans leurs bazouks et leurs strapons, et cette musique de rêve me perforait jusqu'au trognon. J'évoquais des orgies superbes, des bacchanales dans les canaux. Et pendant qu'on s'aimait sur l'herbe, je fredonnais ces quelques mots. C'est la Java martienne, la Java des amoureux. En fermant mes persiennes, je revois tes trois grands yeux. Ça marche toujours,
ça marche comme ça.
Oui, ça tourne à tour de bras.
La Java d'amour, martial Java, que j'ai dansé dans tes bras.
C'est la Java martienne, la Java des amoureux. Toutes tes mains dans les miennes, je revois tes trois grands yeux. On s'est aimé comme dans un rêve, mais c'est là j'ai dû repartir. Et nos amours ont été brefs, chérie, je voudrais revenir. Ton nom me hantera sans cesse, pendant les longues nuits d'été. Ton nom doux comme une caresse.
Porfiche tout mic d'abicrouté.
Un jour je monterai peut-être chercher le fruit de nos amours. Cet enfant bâti comme un être qui naquit au bout de 8 jours. En voyant son cœur amarcir, le chéri l'aimera beaucoup et prendra pour courir lui dire ses 13 jambes à ses 2 coups. C'est la Java martienne, la Java des amoureux. En fermant mes persiennes, je revois tes trois grands yeux.
Ça marche toujours,
ça marche comme ça. Oui, ça tourne à tour de bras.
La Java d'amour, martial Java, que j'ai dansé dans tes bras.
C'est la Java martienne, la Java des amoureux. Toutes tes mains dans les miennes, je revois tes trois grands yeux. Pour retrouver mon rêve, ma martienne aux trois yeux bleus.
Allons-y, Mars ou crève, je remonterai aux cieux.
Alors comment toi t'es venu l'idée finalement d'écrire un livre entier sur ce groupe ?
Écoute, j'ai l'idée, pour être très franc, l'idée c'est que j'avais envie d'écrire un bouquin quelque part. Je n'avais pas de prétention et je me disais, écrire un bouquin sur quelque chose que des gens ont déjà fait, ça n'intéresse personne. Personne ne m'attend sur le énième bouquin sur Brassens ou sur les frères Jacques. Si je veux écrire un bouquin un jour, il faudra que je tombe sur le bon sujet. Et tout à fait par hasard, je suis tombé sur ce sujet-là. Alors j'avais vu les trois Horace quand j'avais 16-17 ans, ils étaient sur scène, et ça m'avait beaucoup épaté. Et j'en avais gardé un souvenir, et un petit disque souple d'ailleurs, qui m'a accompagné un bon moment. Et puis on n'en a pas beaucoup entendu parler en province. Il faut dire ce qui est. Ils tournaient un peu sur Paris, ils faisaient des tournées, mais... on n'entendait pas beaucoup parler en province, et puis, avec le temps, j'ai perdu le fil. Jusqu'au jour où, dans une convention de disques, j'ai trouvé des 45 tours des trois Horace. Oh, je me suis dit, c'est vrai, ces trois Horace-là, c'est bon. Donc j'ai acheté les 45 tours que je trouvais, puis je me suis dit, je vais chercher les autres. Et j'ai cherché chez les revendeurs de disques d'occasion, etc. Ça a pris du temps, parce qu'il n'y en avait pas beaucoup sur le marché. Et à un moment donné, j'ai eu la totalité de leur discographie. Et je l'ai reporté sur CD. Et ce CD a beaucoup intéressé un certain nombre de gens qui avaient travaillé dans les cabarets, etc. Même il a intéressé l'un des frères Jacques, le dernier survivant, celui qui est mort il n'y a pas longtemps, qui s'appelait Paul Touraine. Je lui avais donné, je le connaissais un peu, et il avait été content de l'avoir. Et puis, j'ai fait un article dans une petite revue de collectionneurs de disques vinyles, qui s'appelle justement Vinyle, et j'avais fait, comment dire, leur discographie, et puis, à la fin du papier, je disais, ce serait bien de les connaître un peu mieux, enfin bon, je veux dire... envoyer des signaux de fumée, je ne sais plus ce que j'avais dit, enfin quelque chose. Aucun écho. J'ai mis mon papier sur mon site sur Internet, et 7 ans, je crois, j'ai eu un message de l'un des trois Horace qui a trouvé mon papier sur Internet, et puis de la fille d'un des autres qui était mort entre-temps. Et donc, j'ai dit, c'est une bonne aubaine. Alors, j'ai fait des émissions de radio avec eux. Et puis, on a décidé de se retrouver. Et quand j'ai rencontré Michel Orphelin, qui m'a beaucoup aidé pour ce livre, et qui est co-auteur pratiquement de ce livre, et j'ai vu qu'il avait des classeurs avec des documents extraordinaires. Je me suis dit, là, il y a quelque chose à creuser, là, il y a quelque chose à... Pour utiliser ça, sinon c'est perdu pour tout le monde. Personne n'en reparlera jamais si on n'utilise pas ça. Donc je me suis dit, pourquoi on ne ferait pas un petit bouquin ? Et j'en ai parlé à Michel, il dit, oui, c'est une bonne idée, ça nous ferait revivre tout ça, bon, etc. Et donc on est devenus potes, quoi, un peu, hein. Et on s'est mis à travailler là-dessus. Donc j'ai élaboré un plan, j'ai dit, on a discuté, j'ai interrogé, je lui ai dit, et ça, qu'est-ce que vous faisiez quand vous faisiez ça, enfin, etc. J'ai essayé de lui extirper de la mémoire les moindres bribes de souvenirs. Et ça s'est passé comme ça. Et donc après, on a écrit, on s'est corrigé l'un l'autre, etc. Et le livre est sorti. Voilà.
Alors c'est très documenté, hein, donc grâce aussi, comme tu l'as dit, à l'aide, aux souvenirs de certains des membres, notamment Michel Orphelin.
Ouais.
Ce qui est aussi intéressant, c'est que ça nous replonge, ou ça nous plonge tout simplement, dans une certaine atmosphère, hein, le Paris de la fin des années 50, début 60. On y croise aussi tout un tas de figures qui ne sont pas encore devenues légendaires. Jacques Brel, mais aussi oui. plein d'autres
Guy
artistes.
Béard, etc.
Gaufret.
C'est effectivement une époque qui commence à être un peu, comment dire, regrettée et décrite dans la collection dans laquelle justement je publie ce bouquin, qui est la collection Cabaret chez l'Harmattan, où il y a toute une liste d'ouvrages qui essayent de faire revivre tel ou tel aspect justement de cette chanson des cabarets des années 50-60.
Une des figures importantes pour le groupe Les Trois Horaces, c'est Alejandro Jodorowsky, qui a une part importante dans les spectacles montés par les Trois Horaces, parce que c'est lui qui a introduit finalement, qui a perfectionné les techniques de mime, et puis qui a introduit un peu le côté un peu surréaliste finalement, Alejandro Jodorowsky, qu'on connaît en tant que réalisateur de films,
auteur de BD
aussi, oui,
oui.
Beaucoup.
Oui, alors ils ont eu une chance phénoménale de rencontrer Jodorowsky, parce que je pense que contrairement aux frères Jacques, là justement, où ils avaient en eux-mêmes le don de la mise en scène, eux ne l'avaient pas, c'était pas leur, ils n'avaient pas cette culture-là. Et ils ont rencontré Jodorowsky qui les a pris en main au début, leur a appris toutes les techniques de mime, même des choses dont ils n'avaient pas besoin pour leur chanson en fin de compte. Et qui a essayé de faire des mises en scène dans lesquels ils mimaient les personnages, les situations, etc. Et en même temps, ils utilisaient des instruments ordinaires, détournés de leur utilisation première, dans une image un peu surréaliste. Et c'est ça qui a fait leur succès. Ils utilisaient un mètre pliant pour en faire des cornues, une potence, une couronne de fleurs, etc. C'était extraordinaire. Ils utilisaient des éventails japonais qui font des espèces de fleurs pour faire des bouquets, des présentations, etc. Et pour mimer une chanson de Riss et Barrier qui s'appelle justement « J'aime les fleurs ». Bon, c'était extraordinaire. Jodorowsky a eu... a été pour leur carrière un moteur extraordinaire. Je pense qu'ils ont eu une chance phénoménale de le rencontrer.
On peut même dire que finalement, c'est plutôt l'aspect visuel qui fait l'intérêt de ce groupe plutôt que le côté musical. Je veux dire, le répertoire et la manière de chanter, ça a moins d'intérêt que de regarder finalement le spectacle, de voir aussi, on peut regarder, les auditeurs peuvent regarder sur le site de l'INA notamment quelques vidéos.
Oui, c'est leur force, comment dire, et leur faiblesse un peu. C'est qu'effectivement, quand on écoute le disque, les chansons sont très travaillées, il y a plusieurs voix, ils faisaient attention, et c'était assez bien léché, mais c'était pas extraordinaire. Ils n'ont jamais fait une grosse carrière discographique, c'était leur jeu de scène qui était leur marque de fabrique. Et c'est ce qui un peu les a perdus, parce que autant les frères Jacques, par exemple, avaient aussi une carrière discographique en parallèle de leur récital, les frères Jacques enregistraient toujours des disques. Ils ont fait par exemple un disque de Brassens, qui n'a jamais été monté sur scène. Ils ont fait un disque de la mythologie de Riss et Barrier, qui n'a jamais été monté sur scène. Ils ont fait un disque de chansons de début du siècle, enfin début du 20e, qui n'a jamais été monté sur scène. Ils faisaient des disques en parallèle. Ils avaient en fait deux carrières, une carrière discographique et une carrière de spectacle. Et bien sûr, il y avait des disques de leur spectacle aussi, mais ils avaient diversifié. Et ça leur donnait une dimension, une épaisseur discographique que n'ont jamais eu les Trois Horaces. Et dans ce métier-là, il faut jouer sur tous les tableaux. Il ne faut pas jouer seulement sur le tableau de la scène ou seulement sur le tableau de la discographie ou de la télé, etc. Il faut jouer sur tous les tableaux. Et donc là, je pense que leur faiblesse, ça a été d'une part d'avoir un répertoire plus improvisé, moins choisi que celui des frères Jacques, qui aura été un peu par hasard, qu'ils ont choisi des chansons un peu par hasard, sans avoir... Les frères Jacques choisissaient une chanson en fonction de la mise en scène. Ils voyaient déjà à l'avance la mise en scène qu'ils allaient en faire. Tandis qu'eux, ils choisissaient des chansons qui leur plaisaient. Puis après, Jodorowsky devait trouver une mise en scène. C'est pas la même démarche. Et puis, ils n'ont pas cherché à renouveler leur répertoire. Ils avaient un stock d'une vingtaine de chansons, les pantomimes qu'ils pouvaient faire sur scène et qu'ils pouvaient faire tenir un spectacle d'une heure et demie, quelque chose comme ça. Mais ils n'ont jamais renouvelé. Ils ont toujours pris les mêmes. Et donc, au bout d'un certain temps, quand on ne se renouvelle pas, on ne trouve plus d'engagement, etc. etc. Et donc, c'est un peu ça qui les a, qui a été une des causes de l'arrêt de leur numéro.
En montant sur l'échafaud, il n'a pas dit un seul mot, mais on croyait à sa tête qu'il venait pour faire Cosette, et c'était beau. Regardant de là-haut, il vit la foule des badauds qui ne voulaient pas perdre une miette du spectacle à la sauvette, c'était idiot. Arrivé sur l'échafaud, le bon Dieu lui montre les crocs. Oui, je l'ai tué la belle Lulu parce qu'elle m'avait fait cocu, j'ai eu sa peau. Se tournant vers le bourreau, il partit d'un rire idiot. Il se voyait sans sa tête en train de faire des pirouettes ou du vélo. Diable ou Dieu, recevez l'âme de ce Regardant le populo, il pensait encore tout haut. Il faudrait médium savonne, que je les aime et je leur pardonne, ce serait trop beau. Diable ou Dieu, recevez l'âme de ce malheureux. Avant que tombe le couteau, les copains, buvez un pot, à moi que la tête n'est pareille.
Suite de notre entretien avec François Bellard qui vient de publier Les Trois Horaces, les artisans imagiers de la chanson aux éditions L'Harmattan. Il sera en séance de dédicace dans les locaux de Radio PFM au 11 place de l'Ancien Rivage à Arras ce samedi 4 mars de 14h à 16h. Carrière honorable, même si, donc on l'a bien compris, ils n'ont pas atteint un grand succès. Mmh. Quel regard ils portent aujourd'hui, hein, puisque on l'a dit, tu as été en contact avec au moins l'un d'entre eux.
Non, avec deux d'entre eux.
Avec deux d'entre eux. Alors quel regard ils portent sur cette période de leur vie, finalement, une belle aventure humaine et musicale quand même.
Alors une très belle aventure. Ceux que j'ai rencontrés, il y en a un qui est décédé, évidemment, j'ai pas pu recueillir son témoignage, encore que indirectement, j'ai un peu des idées, mais ils sont très contents de ce qu'ils ont fait, de toute évidence. Ça a été un des moments forts de leur vie. Ils ont vécu à droite, ils ont été à gauche, ils ont rencontré des tas de gens. C'était bon. Et quelque part, ils en ont la nostalgie. Ils sont déçus que ça n'ait pas continué quelque part, dans leur tête. Alors, c'est relatif, parce qu'après, les uns et les autres ont fait d'autres choses, et ce qu'ils avaient fait aux Trois Horaces leur a servi dans ce qu'ils ont fait après. Ils ont été soit comédiens, soit syndicalistes, soit... même il y en a un qui a fait de la médecine. Bon. Et donc, ça leur a servi. Mais, quelque part, ils ont un petit regret. Et c'est dans la postface de Jean-Claude Sergent, à la fin, il exprime plus ou moins entre les lignes cette espèce de regret. Il dit « quand j'y pense, j'ai les boules ». C'est un peu son expression. Et il regrette qu'en fin de compte, ça n'ait pas pu survivre. Bon, ça n'a surtout aussi pas pu survivre parce qu'il ne pouvait pas vivre à 3 ou 4 avec le pianiste et 5 avec le metteur en scène sur un cachet. C'est ça qui a été aussi économiquement une des causes essentielles de leur dispersion.
Oui, il y a notamment un peu, on va dire, le leader, celui qui est un peu à l'origine du groupe, François Parot. Lui, il n'avait jamais voulu reparler de tout ça, c'est ça ?
Il a été contacté une fois directement par mois et une deuxième fois indirectement avec mon article qui lui a été envoyé et il n'a jamais répondu. Je sais que c'est arrivé puisque sa veuve m'a montré les choses qu'il avait reçues. Donc je sais que c'est arrivé. Et il n'a jamais répondu. Moi, ça m'étonne beaucoup. J'ai rencontré beaucoup d'artistes, enfin beaucoup, un certain nombre d'artistes. Et quand on leur demande de parler de leur passé, souvent ils sont enthousiastes, ils sont contents, ça les rajeunit, ça leur fait, bon, ça leur fait une vague de souvenirs, ça leur plaît beaucoup. Et j'ai eu une fois un refus. C'est avec, je peux dire son nom, c'est Henri Serre, je ne sais pas si ça vous dit quelque chose, c'était un acteur qui a joué dans Jules et Jim, en particulier, Truffaut. Et il avait fait un duo Suc et Serre, et j'ai essayé de le rencontrer, il n'a jamais répondu, il n'a jamais voulu. Et j'ai su par ailleurs qu'il ne voulait jamais reparler de cette période-là. Pourquoi, j'en sais rien. Bon. Mais c'est la seule fois où j'avais eu un refus. Et je peux croire qu'il était motivé par une sorte de... comment dire, de déception. Il n'avait pas eu la carrière, il avait quitté le duo et il n'avait pas eu derrière la carrière de comédien qu'il espérait. Donc il y avait quelque part une rancœur, bon. Et c'est pour ça que François Parot, moi ça m'étonne beaucoup qu'il n'ait pas répondu. Et je pense qu'il avait aussi une certaine, pas une rancœur, mais une certaine... un certain désenchantement vis-à-vis des trois Horaces. Parce qu'en fin de compte, ça avait été celui qui avait lancé l'affaire et ça a été le dernier à rester. Tous les autres sont partis. Je pense que quelque part, il était un peu déçu de l'attitude des autres et qu'il ne voulait pas reparler.
Alors, tu en as parlé un petit peu. Après la carrière des trois Horaces, les membres ont eu des trajectoires diverses et c'est quand même assez étonnant, la richesse des trajectoires. Alors, Michel Orphelin, lui, il était dans le cercle de tout ce qui est initiative chrétienne autour de la réconciliation.
Oui, c'est ça. C'était un mouvement qui s'appelait à l'époque le réarmement moral. C'est tout un programme. Et donc, il a été séduit par ce mouvement. Il m'a raconté. Il a trouvé la foi, quelque part. Donc, bon, c'est tout à fait respectable. Et il s'est engagé dans ce mouvement. Et il a fait beaucoup de choses avec ce mouvement. Comment dire, il a utilisé la culture qu'il avait pour faire passer des idées de paix, de réconciliation entre les peuples, entre les individus, etc., etc. Il a beaucoup, enfin, ce mouvement a beaucoup influencé les protagonistes de la future Europe, en fin de compte. Hein, bon. Et donc, les réconciliations nécessaires entre les Allemands et puis les Français, etc. Et donc, il a beaucoup travaillé dans ce mouvement, et avec la particularité qu'il y a travaillé gratuitement. Pendant toute sa carrière, il n'a jamais été payé par ce mouvement. Et il était simplement nourri, logé et habillé, enfin il avait ce qu'il fallait pour vivre, quoi, mais il n'a jamais été
comme
payé.
Comme les prêtres, quoi.
Oui, un peu, bon. Et en parallèle, il faisait aussi des rôles dans des pièces, etc. Mais bon, pas beaucoup, en fin de compte, c'est surtout à la fin, vers la fin, il a fait quelques pièces. Et au moment où le mouvement a changé un peu, il a changé de nom, il a changé aussi de moyens. Il s'est mis à l'ère de la vidéo, de l'internet, etc. Et à ce moment-là, il a dit que c'était plus son truc, quoi. Il avait 60 ans et plus. Et donc il a pris sa retraite. Et à ce moment-là, le mouvement en récompense de ses bons et loyaux services, lui a attribué une rente. Rente qui est assurée par le fait qu'ils ont eu des dons de maisons, de choses comme ça, qui sont loués, qui donc rapportent et qui permettent de payer une rente à ces gens-là. Donc en fait, il a une sorte de retraite rente, voilà. En plus de sa retraite de comédien, parce que les années où il a fait les trois Horaces, il était comédien. Il a eu une carrière de comédien qui ouvre des droits à une certaine retraite. Donc il a ça.
Alors François Parot, on en a parlé un petit peu, lui s'est investi dans le syndicalisme, dans la défense des droits d'auteur finalement.
Pas vraiment des droits d'auteur, des droits d'interprète. parce que justement les droits d'auteur existaient et avaient leur longévité, c'est-à-dire que un auteur qui a fait une chanson, si la chanson est réinterprétée pendant des années, des années, des années, il touche des droits à chaque interprétation de la chanson. Tandis que les interprètes, ils interprétaient la chanson une fois pour toutes, et puis à chaque fois que ça repassait à la télé ou que ça c'était diffusé en radio, etc., ils étaient ignorés des droits. Donc il a lutté pour que les interprètes aient non pas un fixe au moment où ils font la prestation, et puis après on n'en parle plus, et à la place il voulait que les interprètes, que ce soit des interprètes de séries télévisées ou tout ce qu'on veut, hein, de téléfilms, tous les interprètes touchent des droits à chaque fois que le produit dans lequel ils ont travaillé était réutilisé, repassé, etc., etc. Ça a été ça son combat, et c'est comme ça qu'il a milité syndicalement, et puis qu'il a été à la DAMI. C'est lui qui a été un moment président de la DAMI, c'est-à-dire des droits des interprètes.
C'était le plus engagé à gauche, on peut dire ça comme
oui,
ça.
Oui, tout à fait. Oui, oui, oui. Il était très proche de la CGT. À l'époque, la CGT, on sait bien que c'était le Parti communiste qui était derrière. Hein. Bon, maintenant, c'est peut-être plus tout à fait ça, mais à l'époque, oui, il était très à gauche de ce côté-là. Voilà. Et quelque part, le combat qu'il a mené a obligé à générer des nouveaux droits. C'est-à-dire que dans les spectacles, les organisateurs de spectacles devaient dégager non pas des droits SACEM, mais des droits pour les interprètes aussi, des droits à DAMI, etc., qui étaient rediffusés après. Et ces nouveaux droits ont donc renchéri les spectacles. Et indirectement, ils ont servi les chanteurs, les interprètes, mais indirectement, ils les ont desservis aussi, parce que renchérissant les spectacles, il y en avait moins. Donc, c'était très ambivalent, la démarche de François. Et bon, il ne s'en rendait pas compte à l'époque. Hein. C'est maintenant qu'on s'en rend compte, quand on analyse a posteriori.
Autre trajectoire, c'est le troisième finalement, oui. des trois Horaces, Jean-Claude Sergent. Alors lui, ce qui m'a vraiment intéressé aussi dans sa trajectoire, c'est qu'il a utilisé le mime, le théâtre, dans le domaine de la psychiatrie.
Absolument. Il a d'abord commencé par des fonctions culturelles. En étant attaché culturel à l'ambassade du Sénégal, il a aussi pris contact avec des gens avec des psychiatres très importants, et il a essayé de s'orienter en même temps vers l'utilisation du mime pour résoudre des problèmes psychiatriques que rencontraient des patients. Et ça a eu du succès parce qu'il a, il y a un certain nombre de patients qui, en mimant des scènes difficiles, etc., qui leur avaient été faites, ou en laissant des étudiants mimer ces scènes, eh bien, en étaient plus ou moins délivrés, étaient plus ou moins guéris. Ça a eu beaucoup de succès. Et du coup, il a continué dans la psychiatrie. Et puis, de la psychiatrie, il est passé à la médecine chinoise.
C'est ce qui est passionnant dans ce bouquin, finalement, c'est qu'à partir de la découverte d'un vinyle, on découvre un peu la vie des gens à une certaine époque, et puis aussi leur parcours et leur trajectoire riche et variée.
Oui, c'est un peu ce qui m'a séduit dans la rédaction de ce bouquin, c'est que c'est plein, j'ai eu plein de choses inattendues. Et une fois qu'il est sorti, depuis qu'il est sorti, j'ai encore des choses inattendues, parce qu'il y a eu une signature à l'Harmattan du livre, et qui est venu à la signature, quelqu'un auquel on n'avait jamais pensé en l'écrivant, c'est le pianiste, leur pianiste. On pensait qu'il existait plus, on n'a pas recherché, et il est venu, il s'est présenté, il a retrouvé Michel, c'était émouvant. C'était...
Alors ça s'appelle Les Trois Horaces, les artisans imagiers de la chanson, c'est en vente un petit peu partout, et notamment à Arras, à la Grande Librairie.
Oui.
Et puis, on signale aussi que François Bellard, hein, tu proposes une séance de signature dans les locaux de Radio PFM, 11 place de l'ancien rivage à Arras, à la nouvelle adresse. Donc, ça sera le samedi 4 mars de 14h à 16h.
Parmi les cornues poussiéreuses qui fument comme les bienheureuses, une tête hirsute au regard triste, c'est mon ami l'alchimiste. Du matin au soir à la tâche, il fait mijoter sans relâche
le fer,
le plomb,
le har en sang,
pour faire de l'or, de l'or, de l'or.
H2O, sinus A, Pythagore, cotangente, 3 fois 6, BABA.
Mais toujours l'or ne vient pas.
Là, des recherches méthodiques, il fait pour son plaisir unique, d'exquis mélanges breuvatiques, forts en degrés alcooliques. Et par de copieuses rasades, il chasse son humeur maussade.
La terre tremble sous ses pieds, grâce aux travaux de Galilée.
H2O, sinus A, Pythagore, cotangente, 3 fois 6, BABA.
Mais toujours l'or ne vient pas.
Pourtant un jour voilà que brille, Eureka voilà que scintille, le métal qu'il n'espérait plus, dont on fait les riants écus.
Mais ce n'était pour sa défaite qu'un malheureux bouton de manchette qui voulait jouer les intrus. De désespoir, il s'est pendu. H2O. Sinus A, Pythagore, cotangente,
je poserai sur ton lit de mort.